RFI 21h à Paris, 20h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Les États-Unis sont totalement alignés derrière Israël. Voilà le message de Marco Rubio à Benjamin Netanyahou, le secrétaire d'État américain, qui s'est longuement entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre israélien. Les deux États partagent les mêmes positions concernant le Hamas, l'avenir de la bande de Gaza et l'Iran. En Russie, plus d'un millier de personnes ont rendu hommage aujourd'hui à l'opposant Alexei Navalny un an après sa mort. Malgré les risques, ils étaient donc nombreux à se recueillir sur sa tombe. En Argentine, le président Javier Milei sous le feu des critiques après avoir fait la promotion d'une crypto-monnaie dont la valeur s'est effondrée par la suite. Et puis en France, les vignerons bordelais inquiets des mauvaises récoltes de l'an dernier, du jamais vu depuis 30 ans. La majorité des exploitations est en difficulté. Cette première visite en Israël du nouveau secrétaire d'État américain, première étape de la tournée de Marco Rubio au Proche-Orient. Il a rencontré ce dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au lendemain du sixième échange d'otages israéliens détenus à Gaza contre la libération de prisonniers palestiniens. Et les deux hommes ont notamment évoqué cette question des otages, Michel Paul.
3 heures d'entretien et des déclarations conjointes qui montrent à quel point Israël et les États-Unis sont à l'unisson. Le président Trump et moi-même travaillons en pleine coopération et coordination, proclame le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Nous avons une stratégie commune dont nous ne pouvons pas toujours dévoiler les détails en public, notamment quand les portes de l'enfer vont s'ouvrir, comme ce sera sûrement le cas si tous nos otages ne sont pas libérés. Jusqu'au dernier.
Position très ferme du secrétaire d'État américain sur la question des otages. Nous œuvrons très étroitement ensemble à leur retour. Le Hamas doit être éradiqué en tant qu'entité militaire et gouvernementale, dit-il encore. Marco Rubio qualifie le plan de Trump sur Gaza d'audacieux.
Le président s'est montré aussi très résolu sur sa vision de l'avenir de Gaza. Cela a pu choquer et surprendre certains, mais on ne peut pas continuer un cycle où l'on se répète incessamment pour arriver au même point.
Autre point d'accord, l'Iran, la source d'insécurité prépondérante dans la région, selon Marco Rubio. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Israël finira le travail contre la menace iranienne avec le soutien des États-Unis. Voilà ce qu'a dit le Premier ministre israélien, donc aux côtés du secrétaire d'État américain. Une visite qui coïncide aussi avec l'arrivée en Israël d'une cargaison de bombes lourdes américaines. Des livraisons qui avaient été stoppées par l'administration de Joe Biden face aux inquiétudes de la communauté internationale concernant la mort de civils dans l'enclave palestinienne. À Gaza, le Hamas accuse Israël d'avoir violé la trêve aujourd'hui après une frappe qui a tué 3 policiers. L'armée israélienne dit avoir ciblé des hommes armés. L'armée israélienne qui dit aussi avoir mené des frappes aériennes visant des sites du Hezbollah au Liban. Des frappes dans l'est du pays, dans la vallée de la Beka, selon l'agence de presse libanaise. Malgré les risques, plus d'un millier de Russes se sont recueillis aujourd'hui sur la tombe d'Alexeï Navalny, un an après la mort en prison du principal opposant au Kremlin. Par un temps glacial, des dizaines de familles avec des enfants parfois se sont rendus au cimetière où il est enterré. Des policiers, principalement habillés en civil, étaient déployés tout autour. Écoutez ces témoignages recueillis par notre correspondante Anissa El-Jabri.
Je vis en Russie et j'ai peur. Nous avons tous peur de Vladimir Poutine et de son régime.
Je ne crois pas prendre un risque. Quel crime on commettrait en allant juste déposer des fleurs au cimetière. La police est là, formidable, on va lui sourire.
On est venu à la fois chercher du réconfort et envoyer un message, se rappeler de lui aussi. C'est quelqu'un qui nous est proche, comme un parent. Pour moi, il est mort à cause de nous, parce que nous n'avons pas su le protéger, et je me sens coupable.
Moi, je voulais montrer que son travail est toujours actuel et que tout ce qu'il a fait n'est pas oublié, qu'il y a suffisamment de monde parmi ceux qui sont encore vivants pour porter ce qu'il a fait.
Oui, Alexei n'est plus avec nous, mais son travail, lui, vit toujours et nous devons le continuer.
Témoignage recueilli par notre correspondante Anissa El Jabri. Les Européens réunis demain à Paris pour faire front face à la méthode Trump en Ukraine. Alors que le président américain entend négocier la paix directement avec la Russie et sans les Européens, le président français Emmanuel Macron recevra donc demain à l'Élysée une dizaine de dirigeants du vieux continent ainsi que le secrétaire général de l'OTAN pour faire le point sur la sécurité en Europe. L'attaque au couteau qui a eu lieu hier en Autriche est une attaque islamiste avec des liens avec le groupe État islamique. Déclaration ce dimanche du ministre autrichien de l'Intérieur lors d'un point presse à Villach, la commune où a eu lieu l'attaque. Un adolescent de 14 ans est décédé. L'auteur présumé des faits est un Syrien de 23 ans qui s'est radicalisé en ligne en très peu de temps. Des dizaines de milliers de manifestants contre l'extrême droite ont défilé aujourd'hui à Berlin. 30 000 personnes selon la police, 38 000 selon les manifestants contre le parti AfD. À une semaine seulement des élections législatives, ce mouvement tente un peu à s'essouffler puisqu'une manifestation similaire organisée il y a une semaine à Munich avait rassemblé plus de 160 000 personnes. Dans les sondages, l'AfD arrive en deuxième position avec 20% des voix. Le président argentin au cœur d'un scandale, Javier Milei a partagé vendredi soir un message sur le réseau social X faisant la promotion d'une nouvelle crypto-monnaie, la Libra. Dans la foulée, des milliers d'Argentins ont investi dans cette monnaie en quelques heures. Les fondateurs de cette crypto ont ensuite revendu leur part en pochant des millions. Le cours de la Libra s'est effondré, laissant des citoyens qui avaient investi avec des actifs sans aucune valeur. Partout en Argentine, les économistes dénoncent une arnaque. Le président argentin assure lui qu'il ne connaissait pas les détails de ce projet. Rebecca Rondel.
Quelques heures après la publication de ce post et ses répercussions, Javier Milei l'a supprimé et a affirmé dans un second message qu'il n'avait aucun lien avec cette entreprise. Une entreprise qui, elle, s'inspire fortement du président. Sur son site, elle reprend son slogan fétiche « Viva la Libertad » et lui rend hommage. Hier, dans un communiqué, Javier Milei a précisé qu'il avait participé à des réunions avec une entreprise connectée à Libra, mais pour lui, rien d'anormal. Il ajoute qu'il partage au quotidien sur ses réseaux sociaux les projets de beaucoup d'entreprises. Il a tout de même annoncé la saisine du bureau anticorruption pour identifier une conduite inappropriée au sein du gouvernement et de la présidence et la création d'une unité d'investigation au sein de la présidence, ce qui a suscité de fortes réactions chez les internautes. Exemple, le président enquête sur lui-même, ça ressemble à une autre blague. Suite à ce scandale, plusieurs partis demandent la création d'une commission d'enquête, voire un procès. Le groupe péroniste Union pour la Patrie a annoncé qu'il lancerait lundi une procédure en vue d'une éventuelle destitution.
RFI 21h08 à Paris en France. Cette crise chez les vignerons bordelais, les vendanges réalisées l'an dernier sont au plus bas depuis 1991. En cause, les mauvaises conditions météo et le rétrécissement du vignoble via l'arrachage subventionné de parcelles. À cette mauvaise récolte s'ajoute la baisse de la consommation mondiale et la concurrence internationale avec d'autres pays producteurs. Résultat, 95% des domaines sont en difficulté avec des viticulteurs surendetté. Reportage au sud de Bordeaux de Noémie Le Weller.
En ce mois de février, la préparation de la récolte 2025 a déjà commencé.
On taille la vigne, on tombe les bois, c'est-à-dire on sort les sarments qui restent sur le palissage.
La zone de l'Entre-deux-Mers est réputée pour ses liquoreux en appellation Cadillac. Mais Olivier Metzinger produit aussi du vin blanc sec, du rosé et du vin rouge en côte de Bordeaux. Le vin rouge, dont la consommation a baissé de 30% en 10 ans.
Aujourd'hui, il y a vraiment des moments où c'est complètement arrêté, vous trouvez plus rien à vendre. C'est très tendu, on gère le jour, hein, faut pas se leurrer. Nous, on a réorganisé nos emprunts, on a diminué nos surfaces, on a arraché une partie avec des aides d'arrachage.
Olivier cultive aussi désormais des céréales et propose des prestations de services agricoles. Mais tous les vignerons ne survivent pas à ce long passage à vide. Didier Cousinet, président du collectif Viti 33.
Ça fait 15-20 ans qu'on vend le vin en dessous de 1000 euros le tonneau, alors qu'il faudrait qu'aujourd'hui on le vende pour pouvoir vivre et survivre 1400 euros. D'ici des 12 à 24 mois, je ne vois pas de reprise fulgurante. Aujourd'hui, malheureusement, il va falloir qu'il y ait pas mal de viticulteurs qui disparaissent.
Ces prévisions pessimistes se vérifient déjà. La moitié des exploitations viticoles de l'Entre-deux-Mers seraient en vente. Noémie Le Weller, Bordeaux, RFI.
Vous avez jusqu'à ce soir, minuit, temps universel, pour voter pour le prix RFI Découverte. Vous avez donc quelques heures encore pour départager les 10 finalistes. La voix du public comptera autant que celle des membres du jury présidé cette année par Angélique Kidjo.